Chapitre 13. Ô Siméon. Debout au seuil des Trois Pigeons, le lendemain matin, son chapeau de crêpe sur ses merveilleux cheveux noirs et son plaid gris au bras, toute prête à partir pour le bureau, Ferdinand Voine tenait un télégramme ouvert que ses doigts tremblants avaient peine à garder. Derrière les rideaux de mousseline du rez-de-chaussée, Madame Bougival observait furtivement et se demandait quelle nouvelle, pas triste, cela se voyait, pouvait bien émouvoir à tel point sa jeune pensionnaire. En cet instant, M. Nantus sortait de sa chambre et s'avançait lui-même vers le seuil, portant un petit paquet qui contenait ses précieuses pantoufles en tapisserie. Elle l'accompagnait chez lui le samedi soir et il les retransportait au bureau le lundi matin. Il ne s'en fut point séparé pendant un jour entier. « Oh, Monsieur Nantus !» exclama Ferdine. « Siméon arrive dans une heure. Siméon est mon frère, vous savez ?»«
Le jeune savant, oui, je sais, » dit Monsieur Nantus en hochant la tête avec bienveillance.
« Savant, pas encore !» fit modestement Ferdine, qui se serait récrié si quelqu'un eût mis en doute l'universalité des connaissances de Siméon. « Mais il le deviendra dans les pays curieux qu'il va visiter. » Il part demain matin pour l'Inde. C'est très subit. Dans sa dernière lettre, il croyait encore avoir 15 jours devant lui. Son prince russe en aura décidé autrement. Voilà pourquoi il arrive dardard et il n'a qu'une petite heure à me donner entre deux trains. Je vous en supplie, monsieur Nantus, excusez-moi auprès de monsieur Escandier. Je suis si contente et si triste en même temps que je ne sais trop ce que je fais. « Oh, Siméon, mon seul frère, je vais le voir. Mais il va partir et aller si loin, si loin. » Elle rentra à la maison pour dire quelques mots à Madame Bougival, puis, de son pied léger, elle se dirigea, courant presque, vers la petite gare du village qui cachait ses murailles légères et son balcon de bois festonné sous un bouquet d'ormes, tout à la limite des champs. C'était un endroit rustique. La voie ferrée filait entre de vastes prairies de trèfles et les buissons serrés de chaque côté en haies protectrices abritaient des colonies de chardonnerets. Les fenêtres du petit édifice étaient fleuries d'une collection d'œillets dont la femme du chef de gare se montrait fière. Elle aimait assez qu'on lui en fît compliment. Ferdine, qui arrivait beaucoup trop tôt, entra dans la salle d'attente, y trouva un air lourd, empesté de tabac, sortit de nouveau et s'assit sur un banc près de la porte. Au bout de quelques minutes, la femme du chef de gare se pencha à son balcon, aperçut au-dessous d'elle l'amie de Mademoiselle Louise Miserlet, pour laquelle on avait beaucoup de considération dans le village, car on assurait qu'elle faisait la pluie et le beau temps chez les dames du château. Elle descendit aussitôt. « Vous voilà bien solette, mademoiselle !» fit-elle, apparaissant son tricot à la main et venant s'asseoir à côté d'elle. « Vous aurez le temps de vous ennuyer. Le prochain train ne part que dans 50 minutes. »«
Je ne pars pas, » répondit Ferdine. « J'attends le train qui va arriver. »«
Oui, dans un quart d'heure. Je pensais bien que vous ne partiez pas à vous voir sans le moindre petit baluchon. » Et puis, vous avez l'air contente et un peu distrait, et je vois votre cœur battre sous votre ceinture. C'est à ça qu'on reconnaît les gens qui attendent quelqu'un.
« Vous êtes observatrice, » dit Ferdine pour lui faire plaisir.
« Je m'en flatte. À examiner tant de gens qui vont et viennent, on exerce sa judiciaire. J'ai déjà deviné bien des choses et j'en ai prédit qui se sont réalisées. » Ainsi, pas plus tard que mardi dernier, je disais à Jonas Roux, qui prenait son billet pour lui et un veau, pour aller à la foire de Vautrillon et qui me faisait des plaisanteries déplacées, je lui disais « Vous êtes vieux, Jonas Roux, mais vous aurez encore le temps de mal finir. Je ne croyais pas que cela irait aussi vite. »
« Il est mort ?» demanda Ferdine avec un peu d'effroi.
« Ah, cela vaudrait mieux pour lui et surtout pour la pauvre Félise, sa belle-fille, qu'il a si vilainement massacrée. »
Ferdine devint pâle.
« Sa belle-fille ? Oh, Madame Rocher, que dites-vous là ?
La vérité, je n'ai pas coutume de dire autre chose. Vous ne savez donc rien, mais le village est sans dessus dessous depuis la première lueur du jour. »
« Je n'ai vu personne !» murmura Ferdine horrifiée,
osant à peine demander des détails. « Madame Bogivy ne sort jamais le matin et la petite fille qui la sert n'arrive que vers 10 heures. » Les enfants n'ont pas osé bouger jusqu'à l'aube. Il paraît, à les entendre, que le vieux était rentré fort tard dans la nuit, ivre à moitié, c'est-à-dire encore plus mauvais qu'à l'ordinaire, et furieux. Il reprochait à sa belle-fille de lui avoir volé 50 francs. Volé, ça n'est guère probable. Félix est honnête comme un gros sou. Mais qu'elle les ait reçus à sa place, cela se pourrait. Madame la chef de gare s'interrompit pour regarder Ferdine d'un air interrogateur, puis, ayant attendu vainement pendant quelques secondes, elle poursuivit. Mademoiselle Nel dit que Mademoiselle Menton, la couturière, lui a dit que l'aubergiste a vu Monsieur le Pasteur détourner Mademoiselle Louise du château de remettre au vieux Jonas une somme de 50 francs que Madame Miserlet lui envoie chaque année à la même date. Alors, Mademoiselle Louise aura donné cette somme à la belle-fille, qui est assurément bien plus méritante. Ce qui est certain, c'est que le vieux ne l'entendait pas ainsi. Il martela de coups la pauvre femme, qui finit par tomber dans un coin. Il menaça les enfants de les tuer s'ils criaient au secours, et puis il alla dormir. Quand les petits le virent solidement endormi, ils essayèrent d'abord de ranimer leur maman. N'y pouvant réussir, ils coururent appeler les voisins, qui justement commençaient à se réveiller. « La pauvre Félise a des blessures graves, dit-on. Pour cette fois, Jonas Roux a décidément passé la mesure. » « J'espère, cria Ferdinand indigné, qu'il sera puni comme il le mérite. » Les uns disaient, étant ivre, il n'était pas tant responsable. Quand on a bu, il peut arriver à chacun de taper trop fort. Tout de même, ça n'a pas été l'avis général. On est allé quérir Monsieur le Pasteur et le gendarme. On a mené la pauvre Félise à l'hôpital et Jonas sous les verrous. Il a essayé d'attendrir les gens en disant que ça l'avait pris comme une crise et que d'ailleurs, c'était la faute à Madame Miserlet. Tout à l'heure, on assurait qu'à peine au clou, la mauvaise fièvre l'avait empoignée. Ce que j'espère, c'est qu'il ne s'en tirera pas et que sa belle-fille s'en tirera. Mais c'est souvent le rebours qui arrive en ce monde. « Et les enfants ?» demanda Ferdine. « Je crois bien qu'il y en a 6. »« Oui, 6. L'aîné, qui a 8 ans, est déjà très raisonnable. Pourtant, c'est encore un peu jeune pour soigner 5 autres marmots. On fera comme on pourra. Bonté divine, j'entends les signaux du train. » Madame la chef de gare, jetant tricot et corbeille, courut à son poste, car elle remplaçait son mari ce jour-là. Ferdine se leva troublée. Pendant quelques minutes, elle avait complètement oublié Siméon et ses impressions en désarroi se cherchaient sans se retrouver. Il lui semblait même porter tout à coup l'horrible fardeau d'une mauvaise conscience et comme une solidarité involontaire dans cette scène brutale de la nuit. Pour s'en dégager, elle cherchait dans sa mémoire les paroles que Louise avait dites en l'entraînant vers la maisonnette de la veuve Roux. N'avait-elle point, elle, Ferdine, tâché de la retenir en lui conseillant la prudence ?« Quelle lâche amie je fais, pensait-elle, si nous avons vraiment une part de responsabilité, voudrais-je que Louise la porte à toutes ?» Cette pauvre femme, traquée dans un coin par l'affreux vieil ivrogne, et ses enfants morts de peur, qui voient martyriser leur mère et n'osent bouger, sommes-nous donc en quelque mesure la cause de leur supplice ? Quand le train, pantelant et soufflant, s'arrêta devant la gare, quand des visages curieux ou ennuyés se dessinèrent aux portières ouvertes et qu'un jeune homme, le seul voyageur descendant dans cette petite station, sauta lestement sur le quai, Ferdine n'avait pas encore recouvré ses esprits. « Oh, Siméon !» fut tout ce qu'elle put dire en se pendant à son cou. « Mon télégramme t'a alarmé ? » fit-il, la regardant avec inquiétude. « Non, non, ce n'est pas cela. Mais tu as une mine absolument renversée. Ah, je le crois bien, il me semble avoir tué quelqu'un. Quelle absurdité, Ferdine !»« Pourquoi ? » fit-elle sur le point de pleurer. « Faut-il que cela arrive aujourd'hui, quand nous avons si peu de temps à passer ensemble ?»« Juste 1 heure, » dit Siméon, tirant sa montre. « Trouverons-nous près d'ici un endroit tranquille où nous puissions causer sans être dérangés ?»« Au bord de ce grand pré, sous les ormes, il y a un petit chemin plein d'herbes où personne ne passe qu'au temps des fenaisons. Je vais prier madame la chef de gare, qui tient en même temps le buffet, de nous y apporter à déjeuner. Tu as dû te lever avant le jour, Siméon. » Mon train partait à 4 heures. Nous avons encore une foule d'emballages et de préparatifs à terminer, et c'est à grand-peine que j'ai obtenu de disposer de cette matinée pour venir te dire adieu. « Oh !» dit Ferdinand avec émoi, « 8 heures de chemin de fer, aller et retour, et une seule pour se voir, se parler, pour tout se dire, quand on est séparés depuis si longtemps. Ne perdons pas une de ces précieuses minutes. » « Commence par ce qui te concerne, » dit Siméon. « Je veux savoir d'abord ce qui te trouble et te chagrine si fort. » En quelques mots, Ferdinand esquissa l'histoire de leur intervention à elle et à Louise dans la famille Roux et le triste drame qui en était résulté. « Qui sait ?» dit Siméon pour la consoler. « Tout sera peut-être pour le mieux. » La pauvre femme se rétablira et sera débarrassée de son odieux beau-père que l'on condamnera certainement à plusieurs mois de prison. Ah ! S'écria Ferdinand, je voudrais être du jury. Le vieux Jonas attraperait certainement le maximum de la peine et une bonne bastonnade par-dessus le marché. Les châtiments corporels sont abolis, dit Siméon en riant. C'est grand dommage. Il me semble qu'en châtiant Jonas Roux selon la loi du talion, je réparerai le mal que nous avons fait peut-être. T'occuper des enfants serait une expiation plus utile s'il te faut absolument une expiation, dit son frère qui voyait toujours le côté pratique des choses. J'y ai déjà pensé, mais il est très difficile de faire le bien, vois-tu, Siméon. Avec les meilleures intentions du monde, on se trompe. « Je crois, fit-il, qu'ayant peu d'argent, tu ne saurais faire beaucoup de mal. La simple bonne volonté ne saurait être très nuisible. » Ils se mirent à rire tous les deux de cette idée, mais Ferdinand soupira. Beaucoup de choses simples la veille lui apparaissaient maintenant ardues et dangereuses. « Tiens-moi au courant de cette affaire, dit Siméon, et si l'on te nomme du jury, n'oublie pas de me le dire, au moins. » Ils firent ensemble un délicieux déjeuner, car madame la chef de gare, s'élevant à la hauteur d'une telle circonstance, soigna particulièrement son café qu'elle le rapporta dans sa plus jolie cafetière, avec des petits pains croquants, du beurre exquis et les tranches de jambon les plus appétissantes qu'on pût voir. « Quelle sorte de beurre mange-t-on bien à Ceylan ?» demanda Ferdinand entre le rire et les larmes. « Oh, Siméon, promets-moi, mais là solennellement, que tu prendras grand soin de ta santé et que tu ne toucheras pas à leur extraordinaire nourriture. Les sauvages de là-bas y sont habitués, mais toi, c'est bien différent. Et puis, tu n'iras pas sur des rochers périlleux, dis. Quand m'écriras-tu? Tous les 15 jours? Suis-je trop exigeante? Je t'enverrai mon journal, ce sera encore mieux, dit Siméon. » Ferdinand battit des mains. « Splendide ! » s'écria-t-elle. « Et sais-tu, je le copierai, moi, ton journal, afin qu'à ton retour, il soit tout prêt pour l'éditeur. » Siméon rougit. « Je n'y songe pas, » protesta-t-il. « Je ne suis pas encore une autorité scientifique. » Mais Ferdinand vit bien qu'il y songeait un peu tout de même. Et que c'était bon de faire ensemble, à bride abattue, sans trop s'inquiéter des casse-coups, une galopade dans l'avenir. Siméon, à l'ordinaire, le plus raisonnable des mortels de son âge, semblait un peu grisé par la perspective du départ et par ces noms merveilleux de l'itinéraire, Port Saïd, Aden, Ceylan et les peuples de l'Inde et des coins inexplorés du mystérieux archipel de la Sonde, des volcans de boue sulfureuse et puis les îles de corail du Pacifique et la mer de Chine aux poissons bizarres. Voir, étudier, décrire tous les aspects de l'univers vivant, quelle préparation à une carrière scientifique ou quelle préface à d'autres aventures voyageuses. Supposons, dit Siméon dans une envolée hardie de ses espoirs, supposons que mon livre se vende, puisque tu as décrété, Ferdinand, que j'écrirai un livre de mes voyages. Cela me rapportera un peu d'argent, sans doute, et alors je repars, mais non pas seul. Je t'emmène, veux-tu bien? Un frère et une sœur qui voyagent ensemble, cela se fait très bien. Je ne serai plus en novice et je préparerai soigneusement tout l'itinéraire. Tu n'auras pas d'ennui, rien que du plaisir, tu verras. En attendant, je te conseille d'apprendre la photographie. C'est indispensable à des voyageurs et cela rendra notre second livre, au retour, beaucoup plus intéressant.
En attendant, dit Ferdine, rentrant avec un léger effort dans la réalité, je me ferai admettre par Lucienne qui fonde une confrérie de jeunes filles utiles et j'espère avoir quelque chose à te raconter par la suite de mon activité. 2 heures par jour, pas pour de l'argent. Il paraît que nous aurons comme base ces deux principes.
À mesure que l'heure de la séparation approchait, Ferdine devenait fiévreuse, parlait rapidement, essayait de rire, et puis, subitement, elle se taisait, les yeux tristes et vagues, perdus dans le lointain, sa main tressaillant entre les deux mains de Siméon.
« Que ce sera donc étrange de t'envoyer là-bas, dans ces pays bizarres, des nouvelles de notre petit coin banal ? Et comme je vais penser à toi, prier pour toi, j'aurai 1000 craintes. Mais non, je serai vaillante, c'est pour ta carrière ce que tu fais là. Je ne me plaindrai pas même de la distance qui nous séparera. Et tu réussiras, Siméon. Ta tante Cornélie, t'en souviens-tu, disait toujours que les gens à nez carré réussissent dans la vie, fit-elle en riant à ce souvenir. Oh, la chère tante Cornélie, comme ce sera drôle pour toi, dans des grottes et des temples et d'autres endroits fantastiques, le soir, de penser à nous, bonnes gens prosaïques. »
Siméon ne disait pas grand-chose, selon sa coutume, aux heures des départs. Il tenait la main de Ferdine serrée dans les siennes et la pressait un peu plus fort de temps en temps.
« Et je ferai de mon côté ma petite carrière, » poursuivait Ferdine. « J'aurai mes galons quand tu reviendras. Peut-être aurai-je appris l'italien. Monsieur Escandier désire que je sache l'italien. Ah, bien des choses se seront passées sans doute, mais je te raconterai tout, Siméon, tout !»
Ce fut elle, cependant, qui tira sa montre la première.
« Cher Siméon, je ne me pardonnerai pas de te faire oublier ton premier devoir de voyageur, qui est de ne pas manquer les trains. »
« Déjà, » fit Siméon. Il dit cela bien éloquemment, car il le dit de tout son cœur, et il se reprochait de n'avoir point su exprimer à Ferdine 1000 sentiments, 1000 tendresses dont il était plein. Ils se dirent adieu, là, sous ces arbres, qui se penchaient vers eux avec bienveillance. Ferdine ne voulait pas exposer son émotion aux yeux indifférents ou railleurs qui, de chaque portière d'un train, épient les épisodes du quai. Elle resta là toute seule, sans voix, sans mouvement. Quand le train fila devant elle, Ferdine n'eut pas même la force d'agiter son mouchoir, mais son cœur criait au-dedans d'elle-même : «
Dieu te garde, mon frère ! Dieu te garde !»